Prévost, rencontre. Nous remontions la rue Taitbout silencieusement, le musicien Francis Le Cordelier et moi vers Montmartre où son logis à tous les deux. Vous n'étiez pas loin de 3 heures après minuit. Les voitures et les passants se faisaient rares et l'on sentait l'approche de cette brève accalmie nocturne qu'est le sommeil de Paris. Au coin de la rue Saint-Lazare, une silhouette se détacha de l'ombre des murs. Une voix siffla des mots que nous entendîmes à demi. « Messieurs, venez chez moi, tout près, bien mignonne. » La main de Francis se crispa sur ma manche. « Je vous en prie, dit-il, dépêchons-nous. » Nous pressâmes le pas. La pierreuse nous suivait, la voix chétive en psalmodiant de mendiante. « Donnez-moi quelque chose, au moins, messieurs. Je n'ai pas traîné la soirée. Donnez-moi 10 sous, ou ce que vous voudrez. » Francis m'entraînait et courait presque maintenant. « Mais renvoyez-la, je vous en supplie. Oh, donnez-lui quelque chose, mais qu'elle nous laisse. » Je jetai une pièce blanche sur le trottoir. La pièce roula le long de la descente et la gueuse nous lâcha en courant après. Nous étions devant ma porte. En m'arrêtant, je vis le musicien tout pâle. Je l'interrogeai. « Eh bien, qu'est-ce que vous avez ?» Il me répondit. « Je ne me sens pas bien. » Si vous voulez, nous pourrons monter chez vous. Vous me donnerez un verre de n'importe quoi, de la chartreuse ou de la fine. Ça me remettra d'aplomb. » Et il ajouta, plus bas, je vous dirai ce qui m'a touché comme ça. Au second petit verre, assis, la tête basse, devant le foyer dont j'avais ranimé les cendres, Francis commença. « Voilà, fit-il. Vous vous rappelez peut-être quel homme j'étais jusqu'à l'année dernière, friand de jupons, jamais rassasié, comme tous ceux qui ont vécu chaste trop tard et qui se débrident tout d'un coup au-delà de 20 ans. Pourvu qu'elle fût jeune, très jeune, toutes les femmes m'étaient bonnes. Oh, je les attaquais sans préambule, n'importe où je les trouvais, celles qu'on disait sages et celles qui n'étaient que des catins affairés. Et toutes y passaient. C'est facile quand on brusque un peu les abords. Un soir, une nuit, je sortais de chez ma maîtresse. Oui, car j'avais une maîtresse au milieu de ce tourbillon de hasard. Il était à peu près 7 heures-ci. Je regagnais vite, vite mon humble chaumière de la place Vintimille. Et au point où la rue Saint-Lazare coupe la rue Taitbout, juste à l'endroit où nous avons été raccrochés ce soir, un bras de femme se glissa sous mon bras, si prestement et si mystérieusement que j'eus la sensation d'un attouchement surnaturel, d'un frôlement pareil à ceux que nous évoquons après Wagner, dans nos derniers drames lyriques modernes, où les baisers immatériels font frémir la chair robuste des chevaliers, et en même temps une voix d'un timbre juvénile, musical, charmant, prononça: Vous m'emmenez? Je regardais ma conquête. Oh, c'était une petite femme, mince et mignonne, toute vêtue de noir, assez élégante, une voilette blanche, épaisse, enroulée autour de son visage et de ses cheveux, empêchait de distinguer ses traits, mais la ligne de profil se dessinait, se devinait pourtant au travers, net et délicate. Et je répondis tout de suite, emballé: Je crois bien que je vous emmène. Est-ce loin? Non, tout près, place Vintimille. Nous fîmes le bout de chemin qui nous séparait de chez moi en quelques minutes, échangeant les menues répliques si vides et si amusantes des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus, et qui tout à l'heure vont faire le geste de la suprême tendresse humaine, avec laquelle il n'y a plus rien, rien que de mourir ensemble. Avez-vous jamais réfléchi, ça, vous? C'est comique et effrayant. Chez moi, les bougies allumées, quand je voulus l'embrasser, ôter sa voilette, la déshabiller, elle devint soucieuse. Et tout d'un coup, ma parole se défendait. Non, laissez-moi, dit-elle, laissez-moi, monsieur, je vais m'en aller. Je crus d'abord à une plaisanterie, qu'elle jouait un rôle. Mais non, elle avait des larmes dans la voix. Je vis qu'elle hésitait vraiment et qu'elle allait partir. Mais elle se jeta sur le lit, la tête dans les oreillers, garant son visage avec un de ses bras. Je m'agenouillai près du lit, je déchaussai les plus ravissants petits pieds qu'on peut rêver. Elle me laissait faire. Mes doigts montèrent les caresses le long des longs bas noirs, puis s'enhardirent encore. Alors elle se recula d'un bond, mais j'avais entrevu une peau d'enfant, des membres délicats, fermes, comme ceux de ces statues de bronze échappé des cendres de Pompéi qui sont au musée de Naples. Éteignez les lumières, dit-elle. Je tremblais de désir, j'obéis. Et dans l'obscurité, ma compagne se dévêtit très vite, et l'instant d'après, j'étais auprès d'elle. On ne raconte pas des caresses. Celles-là furent inouïes. Était-ce la célébration particulière provoquée par le romanesque de la rencontre, par la résistance inattendue, par le mystère enfin qui enveloppait cette femme que je possédais, que je ne voyais pas, que je n'avais point vue? Peut-être, mais je vous jure que n'avoir depuis jamais, je me souviens, rien ressenti de pareil. Et quand mes muscles trahirent mon envie, quand plus tard je m'abattis sur elle, éreintée, fourbue, finie, elle voulut se relever et partir. Mais j'étais fou, je la voulais toujours. Je lui nouais les bras autour de la taille, je la couvris de baisers, je la suppliais de rester encore. Elle refusait avec des soubresauts de résistance, des fléchissements de voix, comme tout à l'heure lorsqu'elle ne voulait pas se déshabiller. Alors j'eus une inspiration. Si tu te lèves, lui dis-je. Je rallume les bougies. Oh, elle se calma tout de suite. Bonsoir, dit-elle, je reste. Mais l'instant d'après, je m'endormis, mort de fatigue. Le jour était haut quand je m'éveillais. Ma montre, suspendue à côté de mon chevet, marquait 10h05. Oh, tout cela, je me le rappelle nettement. Je me sentis d'abord le crâne vide, les idées rares et incertaines, comme toujours après les nuits de surmenage. Puis le souvenir de ma rencontre me heurta la nuque comme un coup de massue. Je me retournai, la place à côté de moi était vide, mais sur l'oreiller, dans le creux, se moulait encore la marque d'un visage humain, il y avait une large tache de sang. Je suis sûr de n'être ni lâche ni poltron. Je n'ai jamais eu peur des dangers classés, des dangers qui ont un nom. Mais ce danger inconnu, innommable, me désarme, je l'avoue. Il me fallut quelques minutes d'exhortations intérieures pour me décider à me lever et à ouvrir toute grande les rideaux de ma fenêtre et à regarder autour de moi. Ma chambre était en ordre. Même une main soigneuse avait rangé, plié sur une chaise tous mes vêtements qui étaient par terre avaient été aux hasards la veille. J'avais approché de l'oreiller et la tache de sang me tirait l'œil, m'hypnotisait. Je la regardais de tout près. Elle était rougeâtre, d'une horrible teinte d'un rouge de plaie, du sang qui n'a pas coulé, qui s'étaient exprimés lentement par le contact de la chair à vif. Et elle, où était-elle? Partie à coup sûr. Ma chambre, mon cabinet de toilette étaient vides. L'inspection fut vite faite. Évidemment, elle s'était levée pendant que je dormais. Ivre. Mort d'amour. Alors elle s'était revêtue sans bruit et s'était sauvée. Aucune trace ne demeurait de sa présence, sinon cette marque sanglante sur l'oreiller blanc. Je jetai l'oreiller dans un coin de la chambre, contre le mur, la tache, et les tempes bourdonnantes. Je commençais à m'habiller. Mais au moment où je prenais mon peigne pour me mettre en ordre les cheveux, que je pensais long à cette époque-là, je vis entre les dents d'écaille un grand cheveu bluant qui pendait. Qui expliquera le secret mécanisme de nos nerfs? À la vue de ce cheveu blanc, quelque chose se déchira au-dedans de moi. Et je vis, oui, je vis, comme avec les yeux de chair, ce que devait être ma maîtresse de la nuit. Ce qui était, ce qu'elle était, j'en suis sûr. Je la vis nue, avec son corps resté miraculeusement jeune. Et sur ce corps de sorcière, une tête écorchée, une tête sanglante, coiffée de cheveux blancs. Ah, des mots pour peindre cette effroyable vision. Puis soudain, je pensais que j'avais tenu ce monstre contre moi, respiré ses cheveux, baisé cette face. Je tombais à la renverse, évanoui, foudroyé. Francis me versa un verre de chartreuse. Je bus d'un trait, puis après un silence, il poursuivit d'une voix basse, comme calmée. Quand je revins à moi, j'étais dans un lit d'hôpital. J'avais une méningite qui m'a duré 2 mois, qui a failli m'emporter. Et qui m'a laissé, une fois guéri, l'intelligence intacte, heureusement, mais le corps vidé de sang, pour ainsi dire, de spiritualité, débarrassé du besoin ou même du goût de la femme. J'ai changé d'appartement, naturellement. Je suis même pas rentré dans l'ancien. J'évite, au moins le soir depuis que je suis seul, les rues que nous avons passées tout à l'heure. Avec vous, je n'ai pas osé. Mais vous comprenez que la rencontre d'une femme juste en cet endroit, enfin, que voulez-vous? Ça m'a donné un coup. Et même, je vous demande pardon. Vous allez me trouver ridicule et indiscret. Mais si vous aviez ici un second lit ou seulement un canapé, je serais bien aise de ne pas rentrer chez moi cette nuit.